Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous ce matin à l'occasion de ce culte, Liliane et moi-même. Et c'est toujours un plaisir d'être ici et de rencontrer l'Église de Jésus-Christ, cette Église qui évolue, puisque je vois le visage nouveau. C'est que l'Église est en marche et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons notre Dieu qui bâtit son Église. Et nous avons le privilège, vous et moi, de faire partie de cette Église, d'être les coéquipiers du Christ qui bâtit son Église. Et c'est une joie immense. Et cette joie-là nous caractérise en tant que chrétiens. C'est l'une des marques de la vie de l'Église, la joie. Tout récemment, nous étions à un dîner pour l'anniversaire de la mission Grain de Blé. Et à notre table, nous avons engagé la discussion et plusieurs de ceux et celles qui étaient avec nous nous ont dit, dans ce monde si déstructuré, si violent, dans cette société si stressée, comment peut-on se réjouir? Et nous sommes tombés d'accord pour dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons en nous la joie du Christ et que cette joie du Christ peut faire la différence. La vivre dans un monde bouleversé est un témoignage puissant. Mais comment être joyeux, comment vivre de cette joie quand nos propres vies sont malmenées, quand les circonstances de notre vie sont très difficiles et néfastes? Par exemple, quand la maladie nous touche, comment rester dans cette joie? J'aimerais réfléchir avec vous sur ce sujet de la joie et de voir comment cette joie est en nous. Je vais faire donc passer tout à l'heure un PPT. Et j'aimerais que nous lisions dans Jean chapitre 15, versets 9 à 11, un court texte. Jean 15, donc texte très connu, qui se situe après donc la parabole du cep et des sarments. Jésus dit ceci: comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean écrit son évangile et il le dit très clairement au chapitre 20, verset 21, pour dire à ses lecteurs que Jésus est réellement le Christ, le Fils de Dieu. Il faut dire qu'à l'époque de Jean, il y avait certaines hérésies qui circulaient dans l'Église naissante, qui disaient par exemple que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus était un homme ordinaire, que Jésus a revêtu le Saint-Esprit lors de son baptême, et à ce moment-là, il est devenu Dieu. Mais qu'en allant à la croix, et au moment où il était sur la croix, il a perdu l'Esprit, donc il n'était plus Dieu. Cette hérésie était l'embryon du gnosticisme, qui pensait qu'il y avait une séparation entre le Dieu transcendant et saint et le monde créé. Ils pensaient même, les adeptes de cette hérésie, que ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. Et parmi les leaders de cette hérésie, il y avait un certain Sérinthe qui diffusait, même déjà à l'époque de Jean, cette hérésie. Et Jean écrit cet évangile pour montrer que non seulement Dieu est créateur, il le dit dans le prologue, mais que ce Jésus venu de Dieu est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en lui, dit-il, nous ayons la vie éternelle. Et j'espère que c'est le cas de chacun de nous ce matin, personnellement. Voilà. Voilà la structure de l'évangile de Jean que vous avez ici, que je vous ai affiché. Jean écrit un texte très structuré. Il y a le prologue qu'on connaît très bien, où il parle du logos, de ce principe de vie qui est de toute éternité. Ensuite, il y a le corps de l'évangile, c'est-à-dire le développement que Jean va faire au verset 19 du chapitre 1 jusqu'au au chapitre 20. Ensuite, il y a la conclusion, l'épilogue. Et dans le corps de l'évangile, il y a ce que nous appelons le signé, le livret des signes. Jean va bâtir son évangile autour de 7 signes, si on ne compte pas la résurrection et la pêche miraculeuse juste après la résurrection. Il bâtit son évangile autour de 7 signes ou 7 miracles que Jésus effectue justement pour montrer qu'il est Dieu, qu'il n'est pas un simple homme, même s'il était parfaitement homme. Donc, je vous montrerai tout à l'heure le signet de livre, des signes, mais ce qui nous intéresse, c'est la partie qu'on appelle le testament de Jésus, chapitre 13 à 17. Et là, dans cette partie-là, Jésus va s'adresser personnellement à ses disciples. Il ne s'adresse plus à la foule, mais il se concentre sur ses disciples, car il a un message à leur faire passer avant sa mort et avant sa résurrection. Et enfin, la dernière partie de ce corps de l'Évangile, le livret de la gloire, mon Jésus dans sa gloire. Le livret des signes est ainsi construit, et si nous n'allons pas développer, hein, je vous ai mis ça comme ça pour que vous voyez que Jean est bien structuré dans ce qu'il écrit pour arriver à notre texte. Après le liminaire Jean-Baptiste, qui est présenté comme le précurseur de Jésus, il y a les 7 signes que Jean sélectionne parmi tous les miracles que Jésus a faits pour montrer que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Christ. Et quand on regarde ces signes, on voit que c'est encadré par 2 signes qui se déroulent dans un cadre social, comme si ça tournait, on était en concentrique. D'abord, le premier signe, les noces de Cana, où Jésus changea l'eau en vin. Mais ce qui est important dans ce signe-là, ce n'est pas tellement le fait que Jésus ait changé l'eau en vin. Ce qui est important dans ce signe, ce sont les jarres de purification qu'il va utiliser. Pour montrer d'emblée, et Jean veut le montrer, que Jésus est venu pour purifier les péchés. Et c'est ça sa mission. Et c'est pour ça qu'il va mourir sur la croix. Et le dernier signe, qui est aussi dans un cadre social, là, ce n'est plus des noces, mais ce sont des obsèques. La mort de Lazare, son ami. Et là, Jésus va faire une déclaration montrant qu'il est le souverain, celui qui domine sur la mort et sur la vie. Il va s'entretenir particulièrement avec Marthe et dira à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et la suite est très importante. Jésus ne dit pas à Marthe, « Est-ce que tu comprends ce que je te dis, Marthe ?» Il savait bien que Marthe ne pouvait pas comprendre comment lui, l'ami de la famille, se présente comme celui qui donne la vie et qui ressuscite. Mais il dit à Marthe, « Est-ce que tu crois cela ?» Non pas est-ce que tu comprends ce que je te dis, mais est-ce que tu crois. C'est ce que j'appelle en philosophie, il y a un impossible philosophique. C'est-à-dire des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas comprendre en tant qu'humain. Mais s'il y a un impossible philosophique, il y a un possible théologique dans le sens de Dieu qui peut tout, à qui rien n'est impossible. Pour nous, hommes limités, c'est impossible de ressusciter des morts. Mais pour Dieu, c'est possible. Et c'est ce qu'il fait avec Jésus. Et Paul le dit très bien dans son épître aux Éphésiens, au chapitre, à la fin du chapitre 1er. Celui qui, par sa puissance, a ressuscité le Christ est capable de nous donner ce qu'il nous promet. Nous avançons et nous allons nous intéresser donc au testament et à ce texte qui se trouve dans le testament de Jésus qui s'adresse à ses disciples. Donc, Jean chapitre 15, versets 9 à 11. Alors, dans ce texte, Jésus dit à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus est venu mettre en nous sa joie pour que la nôtre soit parfaite. C'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Alors, quelles sont les sources de la joie de Jésus, selon notre texte? Et quelles sont les conséquences de cette joie parfaite qui est mise en nous dans notre vie aujourd'hui, ici-bas, sur cette terre? Sommes-nous des chrétiens joyeux? Vivons-nous dans la joie du Seigneur? Ou est-ce que les vicissitudes de la vie nous écrasent et nous rendent finalement amers? Est-ce que nous subissons la vie? Ou est-ce qu'en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous vivons joyeux, comme Paul nous le demande dans son épître aux Philippiens, par exemple? Lui qui est en prison à ce moment-là, il nous dit « Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Oui, dans le Seigneur. C'est lui, par sa présence, qui nous donne la joie, et Jésus le dit clairement à ses disciples. Nous allons essayer de répondre à ces questions tout à l'heure. Le texte que nous avons lu, Jean 15, 9 à 11, n'est que le dévoilement de la parabole du cep et des sarments dites dans les versets 1 à 8. Jésus dit cette parabole s'adressant à Israël et aux disciples, parce que là, il s'adresse vraiment à la communauté d'Israël et en particulier à ses disciples, et il compare donc Israël à un vignoble dont le père est le vigneron, lui le cep, et nous, les disciples Israël, les sarments. Il faut se rendre à l'évidence que l'image parabolique ici met en évidence l'attachement organique qu'il y a entre le cep et les sarments. Nous sommes attachés au Christ, liés à lui, comme les sarments sont liés au cep. Et si les sarments ne sont pas liés au cep, ils ne peuvent pas produire du raisin. Donc, la parabole rend compte de cet attachement que je dirais organique entre les disciples de Jésus et Jésus lui-même. Mais elle ne rend pas compte, cette parabole, de l'intimité qu'il y a entre Jésus et les disciples. Et Jésus va préciser les choses, il va dévoiler les choses, comme pour dire que ce n'est pas juste un attachement organique, mais ceux qui sont à moi ont avec moi un lien d'amour profond. Autrement, il explique cette parabole. Les sarments ne sont pas banalement attachés au cep. Ils le sont parce que Dieu les aime. Parce qu'il y a un lien d'amour entre eux, les disciples et Jésus. Et il dit à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Donc c'est une histoire d'amour. Notre histoire avec Dieu, avec Jésus, celui venu parmi nous, Dieu lui-même venu parmi nous, est une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire de religion ou d'adhésion à une religion ou à des principes religieux. C'est une histoire d'amour. Dieu nous aime. Et Jean va le dire très vite dans son évangile, dès le chapitre 3, après le prologue. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est une histoire d'amour. Et je ne vous apprends rien ce matin parce que vous le savez déjà, mais ô combien il est important de répéter les choses essentielles. Dieu nous aime. Est-ce que nous le croyons? Et je pense que dans ces temps difficiles dans lesquels nous sommes, il est important que nous, chrétiens, nous soyons convaincus de cela. Et parce qu'il nous aime, dit l'apôtre Paul, entre autres, dans son épître aux Romains au chapitre 8, rien, absolument rien, aucune circonstance, aucune épreuve, même pas l'ultime épreuve de l'homme, qu'est la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais que dans toutes ces choses, dit-il, nous sommes plus que vainqueurs, non pas par nos forces, non pas à cause de nos réussites, mais par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus. Mais que nous a-t-il dit? Qu'a-t-il dit avant de dire aux disciples, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que la vôtre soit parfaite. » Essayons d'analyser le texte et de voir ce que Jésus donc, a dit à ses disciples. Je vais vous l'afficher, comme ça vous pourrez suivre tranquillement. Que nous a dit Jésus dans ce texte? D'abord que le Père l'aime, comme le Père m'a aimé. Ensuite, deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il nous donne l'amour du Père que lui-même a reçu. Ensuite, il nous exhorte à rester dans son amour. Demeurez dans mon amour. Donc, c'est ce verbe « demeurer » qui fait le lien, d'ailleurs, avec la première partie du texte de Jean 15, c'est-à-dire la parabole elle-même, où à plusieurs reprises est répété le verbe « demeurer ».« Demeurer », c'est un verbe qui est très fort, qui n'a pas son équivalent en français. On pourrait le traduire par « tabernacler », mais ça n'existe pas en français, « tabernacler », c'est-à-dire « planter les tentes ». Demeurez en moi, plantez vos tentes en moi. Faites de moi votre maison, votre abri. Ensuite, Jésus nous exhorte à rester dans son amour. Vous allez rester dans mon amour si vous obéissez, donc comme moi-même, j'ai obéi à mon Père. Et ainsi, il nous exhorte à obéir à Dieu comme lui-même a obéi à son Père. Jésus dit, je vous donne ma joie. La joie du Christ, selon ce texte, résidait dans le fait que le Père l'aime. C'est l'amour du Père qui faisait sa joie. La joie du Christ, selon ce texte, résidait dans le fait que Jésus a demeuré dans son Père, c'est-à-dire fidèle à son Père. Jésus aurait pu dévier. Le diable lui en a donné l'occasion. Si tu m'adores, ben tous ces biens seront à toi. Là où Adam et Ève ont échoué, le nouvel Adam, dit Paul, a réussi. Il est resté fidèle. Il a obéi au Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. La joie du Christ résidait dans le fait qu'il nous a servis de la part du Père. Il nous a aimés de la part du Père et il nous donne la joie qu'il avait dans le Père. Comme le Père m'a aimé, Jésus de toute éternité et dans ce que j'appelle l'écosystème de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est là, et dans cet écosystème, c'est une relation d'amour parfait, de paix parfaite, d'entente extraordinaire, pas l'ombre d'une imperfection. Jésus est dans cet univers-là de toute éternité, dans l'amour du Père. Et c'est cet amour avec le Père, le Saint-Esprit, dans lequel il est de toute éternité, qu'il vient nous communiquer, qu'il vient nous exprimer. Il nous donne l'amour du Père. Jésus, joyeux, joyeux d'obéir au Père jusqu'à la mort de la croix. Et ce temps d'obéissance a été terrible pour lui. Depuis le jour où il a dit au Père, « Me voici, envoie-moi », lui, Dieu de toute éternité, dans l'amour du Père, accepte de venir parmi les hommes, se limitant à la condition humaine, lui, Dieu de toute éternité. C'est déjà un sacrifice pour lui. Lui, Dieu de toute éternité, principe de la vie, créateur de la vie, accepte d'avoir sur terre une vie limitée, lui qui est éternel, parce qu'il va mourir. Lui, Dieu créateur, parce qu'en Colossiens chapitre 1, Paul nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il accepte d'être serviteur, lui le roi des rois, d'être ton serviteur, mon serviteur, notre serviteur, par obéissance au Père. Lui vit, créateur de la vie, il accepte, par son service, de mourir sur une croix. C'est-à-dire comme un puni, comme un rejeté, alors qu'il n'avait commis aucun forfait. Il accepte cette mort terrible, horrible, tant sur le plan physique, imaginons, pas besoin de faire un dessin, hein, cloué sur une croix, les membres écartelés pendant des heures, terrible sur le plan spirituel parce qu'il va se sentir abandonné du Père. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Terrible sur le plan social parce que personne ne devait regarder celui qui était cloué en croix parce qu'il était considéré comme puni. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a été cloué hors de Jérusalem. Socialement, c'est terrible. Il s'est senti abandonné par Dieu, par les hommes, dans une souffrance physique et spirituelle terrible. Lui vit de toute éternité, Dieu. Tout simplement pour que vous et moi nous soyons sauvés, que nous ayons en nous la joie de Dieu, cette joie qu'il avait auprès du Père qui vient nous communiquer. Il nous donne la joie pour que la nôtre soit parfaite, dit-il. Alors, qu'est-ce qu'une joie parfaite? Quelle est notre joie parfaite? Il faut dire que Dieu nous a créés avant le péché, il a créé l'homme joyeux, c'est-à-dire en communion avec lui, en parfaite entente avec lui. Le péché est venu par la désobéissance de l'homme, Adam et Ève. Cette joie a été sérieusement ternie, abîmée. Puisque Jésus parle de notre joie en nous. En tant que créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, nous avons la joie de Dieu en nous. Le péché est venu détériorer cette joie. Jésus est venu rétablir cette joie. Afin que votre joie soit parfaite, soit accomplie, soit restaurée, et que vous retrouviez la communion avec le Père. C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. Quelle est cette joie parfaite dont Jésus parle? Mais la joie parfaite qui est en nous, c'est le fait d'être aimé par Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Jésus nous transmet l'amour du Père. Nous sommes aimés de Dieu. Frères et sœurs, s'il y a une vérité qu'il nous faut ancrer dans notre vie, dans notre cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu nous aime et que rien ne peut nous ravir de cet amour, même pas la mort. Notre joie est fondée sur cet amour de Dieu pour nous. Tout le Nouveau Testament nous ramène et nous amène à cela. Dans ce monde où les hommes se font la guerre, où on choisit de s'entretuer, de s'opposer, il est important d'être convaincu que Dieu nous aime et qu'il nous appelle à aimer. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est crucial de voir des hommes et des femmes se déchirer. Oui, on le voit au niveau de la société. Mais qu'en est-il dans nos foyers et dans nos églises? Je travaille dans la gestion des conflits dans les églises. Et quelquefois, dans l'église, ce n'est pas mieux qu'à l'extérieur. Et il faut le reconnaître en toute humilité. Nous sommes des hommes et des femmes. Certes, mais rappelons-nous, frères et sœurs, que nous portons en nous l'amour de Dieu. Non seulement il nous a aimés, mais Dieu est allé plus loin. Je vous laisse lire chez vous Romains chapitre 5, verset 5, où l'apôtre nous dit que Dieu a répandu son amour. Vous savez comment? Ça, ce sont des textes à connaître, vraiment à serrer dans notre cœur. Dieu a répandu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité. C'est lui qui vient sceller l'amour de Dieu. C'est lui qui vient rendre présent l'amour de Dieu dans notre cœur. Parce que tout chrétien a l'Esprit de Dieu dans sa vie. Par le Saint-Esprit, il a mis son amour en nous. Nous portons l'amour de Dieu. Et cet amour que nous portons peut nous amener à des choses extraordinaires. Que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan ecclésial, des choses extraordinaires. Dans mon ministère, j'ai vécu des choses vraiment bénies avec des frères et sœurs quand nous avons amené des frères et sœurs qui s'entre-déchiraient dans une église au pardon et à la réconciliation. J'ai vu dans mon ministère des choses extraordinaires au sein des couples. Des couples qui s'entre-déchiraient pour telle et telle raison et qui, malgré tout, sont restés ensemble, se sont pardonnés et ont repris la route ensemble. L'amour de Dieu est d'une puissance extraordinaire. Paul le dit en 1 Corinthiens chapitre 13. Parce que l'amour vient de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Nous sommes aimés du Père. Nous sommes aimés du Père au point qu'il nous a pardonné nos péchés. Il nous a réconciliés avec lui et il nous a donné une espérance vivante. Ce sont les trois choses qui sont conséquentes de la croix de Jésus. Le pardon des péchés, l'expiation des péchés, la réconciliation avec Dieu et l'espérance. Cet amour de Dieu manifesté envers nous a fait que Dieu nous a pardonné de nos péchés et nous avons retrouvé la relation avec lui. Notre joie se situe là aussi, dans le fait que nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu. Nous sommes désormais en communion avec lui quand nous avons reçu Jésus. On appelle ça la joie du salut. La joie du salut. Malgré tout, malgré les épreuves de la vie, Je suis joyeux parce que je suis sauvé. Ensuite, troisièmement, cette joie parfaite, c'est le fait que Dieu nous ait placés sur le chemin de Dieu. Jean le dit en Jean 15, verset 13, la suite du texte, hein, que nous n'avons pas lu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, vous êtes en communion avec nous. Vous êtes sur mon chemin qu'on appelle la vie chrétienne, le chemin de la vie chrétienne, le chemin d'une vie avec Dieu, le chemin de vivre avec le Seigneur dans toute notre vie, qui ne s'arrête pas uniquement au culte du dimanche matin. C'est 24 sur 24 que nous vivons avec Dieu, que nous sommes en communion avec lui. Ensuite, nous sommes placés dans l'intimité de Dieu. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis, c'est-à-dire gens de ma maison, ceux qui sont proches de moi, ceux qui sont en communion avec moi, ceux qui font partie de moi. Notre joie réside là aussi, dans le fait que nous sommes amis de Dieu. Pas ses copains, hein, mais amis dans le vrai sens du terme. Quelqu'un à qui on peut tout dire et quelqu'un de qui on peut tout recevoir. C'est ça l'ami. Notre joie réside là, c'est que nous sommes dans l'intimité de Dieu. Notre joie réside aussi, cette joie parfaite, dans le fait que Jésus nous ait choisis, verset 16 du chapitre 15. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, je vous ai établi et je vous ai envoyé. Notre joie réside dans le fait que nous sommes au service du Seigneur, choisis par lui. Serviteurs et servantes du Seigneur au sein de son Église. Donc, Jean 15, 16. Vous êtes mes serviteurs, des amis serviteurs, appelés à servir le Seigneur dans son Église. Il y a beaucoup de joie, dit la Bible, à donner. Et on donne ce que nous sommes aux bien-aimés de l'Église pour leur édification avec les capacités que Dieu nous a données. On est appelé à servir dans l'Église. Pour nous, déjà, parce que nous sommes appelés à être serviteurs et servantes, mais aussi pour nos bien-aimés. C'est ça une église dans laquelle on se sert, mutuellement. Il se trouve que dans nos églises évangéliques, eh bien, quand on fait un point, on voit qu'il y a un tout petit noyau qui sert. Et il y a beaucoup qui sont à la périphérie. Alors, frères et sœurs, permettez-moi cette question. Quel est ton ministère dans ton église ici à Chambourcy? Comment tu sers le Seigneur dans ton église à Chambourcy pour ton édification et pour l'édification des bien-aimés qui sont là avec lesquels nous faisons église? Parce que l'église est un corps vivant, un corps à plusieurs membres. Et imaginons que dans notre corps, un membre ne fonctionnant plus, le corps sera handicapé. Notre joie réside dans le fait de servir les autres, comme Christ nous a servi. Et puis, nous sommes les privilégiés, et notre joie repose aussi sur ce privilège que Dieu nous fait. Dans une relation avec lui, tout ce que vous demanderez, dit Jésus, au Père en mon nom, il vous le donne. Alors, ce verset m'a beaucoup intrigué. Est-ce que Dieu nous donne tout ce qu'on désire, tout ce qu'on demande? Pas forcément. Mais Jésus faisait allusion ici, à mon avis, et il va le développer au chapitre 16 à nouveau, parce qu'il l'avait déjà fait au chapitre 14. Il parle du Saint-Esprit. Je m'en vais. Vous ne me verrez plus, mais je ne vous laisserai pas orphelin, dit-il au chapitre 14. Et au chapitre 16, il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Et Dieu nous a fait un don extraordinaire. Voilà pourquoi je dis que nous sommes privilégiés. Un don extraordinaire. Le Saint-Esprit qui est la présence de Dieu dans notre vie. Dieu est venu habiter dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est cet Esprit-là qui nous rend joyeux, qui est la présence même de Dieu. Et avec lui, nous pouvons aimer, prolonger l'amour que nous avons reçu aux autres dans ce monde bouleversé. L'amour au sein de l'Église doit être un témoignage pour l'extérieur. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait, mais l'amour nous amène, quand il y a des ruptures, des blessures, des ruptures, au pardon. Lisez Colossiens chapitre 3, versets 12 et suivants, où Paul dit, comme des bien-aimés de Dieu, des élus de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Et ensuite, il nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement comme le Christ vous a pardonné. Par-dessus tout cela, revêtez-vous de la charité, de l'amour. De quoi sommes-nous revêtus ce matin? Des pensées charnelles, des habits du monde ou des habits nouveaux que le Christ nous a donné et que le Saint-Esprit scelle dans notre vie. Prolonger l'amour que nous avons reçu de Dieu fera la différence dans cette société si déchirée. Alors, mon souhait pour l'Église de Chambourcy, c'est que nous soyons une communauté, une Église, où l'amour de Dieu est vécu pleinement. C'est ainsi que l'Église sera joyeuse, c'est ainsi que nous serons les uns et les autres joyeux pour la gloire de notre Dieu.